force encore une fois. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aussi les chœurs et les cantiques doivent être chantés dans la prière, dans le recueillement. Nous devons penser à ce que nous chantons et nous tenir dans la foi, dans le cantique, pas seulement chanter des cantiques, mais exprimé par cela, que ce soit l'expression de notre cœur, que ce que nous chantons, nous puissions aussi vouloir l'avoir dans notre cœur. Nous avons eu tout un nombre d'appels téléphoniques, même de notre frère Inodi, de la Chine. Et il a dit, frère Franck, nous avons tout suivi, tout entendu, tout vu. Nous pouvons tous très bien suivre. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment je suis reconnaissant pour cela, de ce que Dieu a rendu cela possible, que de cet endroit, dans les langues les plus parlées du monde entier, la parole peut être observée et écoutée. Et pour cela, de ce que il y a des frères qui sont utilisés par le Seigneur pour porter la même parole et pour distribuer la même nourriture par leur propre interprétation, mais la parole de Dieu éternel. Ensuite, nous avons notre frère Théodore aujourd'hui de Kinshasa ici, qu'il puisse se lever. Un homme de Dieu particulièrement béni, que le Seigneur réellement jusqu'à dans les années proches de manière merveilleuse a béni et a pu utiliser. Que le Dieu fidèle te bénisse. Il n'y a pas longtemps, il était en Israël et là-bas sa femme a été repris, donc est décédé, mais il a consacré sa vie et il se tient à la disposition du Seigneur. Que Dieu te bénisse particulièrement parmi nous et aussi dans ton pays et partout où tu seras. Merci. Nous avons le frère Joseph de Kinshasa qui a aussi appelé. Nous avons un appel de l'Angola, nous avons eu un appel de l'Angola, tous ont bien pu suivre tout ensuite, un appel de l'Afrique du Sud, tout un nombre d'appels téléphoniques, ensuite des mails, le frère Christian de l'Afrique du Sud, ensuite les frères et sœurs de l'Australie, et ensuite un mail de El Salvador. Ils ont aussi suivi en direct et ils ont vu la réunion hier. Notre Dieu est un Dieu fidèle. À cela s'ajoutent tous les appels téléphoniques de tous les frères des différents pays. Cela touche simplement mon cœur quand je pense à la grâce que Dieu nous a accordée de ne pas seulement croire, mais de croire ce que Dieu a laissé écrire dans sa parole, de croire la parole, les Écritures telles que les Écritures le disent. Nous avons combien de milliards de personnes qui croient d'une manière ou d'une autre en Dieu, mais qui croit ce que Dieu a dit? Qui croit ce que Dieu a promis? Le frère Alfred Borg a d'une manière si merveilleuse et fidèlement insisté ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 1, toutes les promesses de Dieu, nous voulons dans la foi réellement considérer cela ainsi, que Dieu s'est porté garant et a pris toute la responsabilité pour chaque promesse qu'il a prononcée, pour les accomplir, quand le temps sera arrivé pour cela. Dans Josué, je voudrais rapidement aller dans Josué chapitre 21, au verset 45, Josué 21, verset 45, de toutes les promesses de bénédiction que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes peuvent faire des promesses et ne pas les accomplir. Mais ce que Dieu promet, il l'accomplit certainement. Et notre foi est ancrée dans ces promesses-là de Dieu. Et en tout, elle est ancrée dans la parole de Dieu. En cet endroit, pas une seule interprétation sera prêchée, mais seulement la parole de Dieu dans sa forme originale. À cet endroit, nous ne nous fondons pas sur un seul verset biblique et l'interprétons de toutes les directions. Nous prenons un verset biblique et avec ce verset, nous allons au prochain. Nous allons encore à un autre et encore une fois à un autre pour avoir un éclaircissement entier dans tous les angles de la signification de ce verset. C'est ainsi. Ici, il y a une feuille. Il est souhaité qu'un service de baptême ait lieu. Je voudrais, avant que nous puissions entrer dans l'observation de la parole, demander si il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alors il faut que cela demeure valable éternellement. Mais si ensuite les églises qui existent ont leur confession du baptême, c'est-à-dire la confession romaine, c'est ce qui est écrit dans l'histoire de l'Église, la confession romaine du baptême, la confession trinitaire du baptême, s'ils prennent cette confession-là et tous ceux qui se laissent baptiser bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils sont dans cette façon de voir là du baptême trinitaire et ils disent que ce baptême trinitaire du concile est le seul vrai dont Paul écrit ici dans Éphésiens 4. Non, c'est justement le contraire qui est la vérité. Le seul baptême valable duquel Paul ici a écrit dans Éphésiens 4. Déjà Pierre, dans sa première prédication, l'avait prêché. Ce baptême a été prêché déjà en Samarite, a été prêché à Éphèse, et c'est de ce baptême-là que Paul écrit ici dans Romains chapitre 6 aussi, que nous tous avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous sommes dans le baptême enseveli avec lui pour marcher en nouveauté de vie en ressuscitant avec lui. Ensuite, particulièrement, en ce qui concerne l'aspersion d'eau sur le front que l'Église, l'histoire de l'Église raconte, que Constantin, dans l'année 337, dans son lit de mort, que Constantin a été aspergé par de l'eau sur son front, et cela a été appelé baptême. Mais ce n'est pas un baptême. Baptême veut dire baptiser, c'est-à-dire immerger dans l'eau. C'est peut-être que dans la parole de Dieu, nous le lisons. Et cela dans Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Je lis ici seulement verset
38. Actes des Apôtres, chapitre
8, verset 38. Il fut arrêté le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Pas une aspersion d'eau sur le front, mais dans l'eau. Philippe, celui qui baptise, et l'eunuque, celui qui fut baptisé. Et l'eunuque, celui qui fut baptisé. Les deux descendirent tous deux dans l'eau pour qu'il puisse bien être immergé dans l'eau, donc baptisé et ressorti de l'eau. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 38. Comme la parole de Dieu nous est précieuse, mais précieuse nous est précieuse à tous, une confession grecque ou bien romaine d'un baptême n'a rien à nous dire. Ce seul Seigneur est Dieu, et ce seul baptême est le baptême biblique qui a eu lieu à Jérusalem. Et cette seule foi est la foi vraie dans le seul vrai Dieu. Et dans Jude, au verset 3, il est écrit que nous combattons pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc, celui qui se convertit et qui consacre sa vie au Seigneur et qui expérimente dans la foi, accepte dans la foi le pardon de ses péchés, peut se laisser baptiser encore aujourd'hui, se laisser baptiser, c'est-à-dire bibliquement, en étant immergé une seule fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Revenons à notre observation de la parole. Tous nous savons que le sujet principal, c'est le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, et l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Ce qui se passe avec Israël, ce qui se passe parmi les peuples, et ce qui se passe sur toute la terre, et particulièrement les promesses pour l'Église. En ce qui concerne Israël, c'est ainsi que nous portons une grande douleur de ce que tous les peuples osent décider sur Israël, etc. Mais ils sont complètement dans l'erreur. Et disons-le ouvertement, Satan est le Dieu de ce monde, le prince de ce monde. Et c'est lui qui émet son influence sur les conducteurs religieux et sur les conducteurs politiques. Et tous sont sous l'influence de l'adversaire. Seulement celui qui se consacre à Dieu et qui vraiment expérimente une véritable conversion et une nouvelle naissance et un baptême du Saint-Esprit peut se soumettre à Dieu et à la volonté de Dieu. C'est peut-être la raison qu'il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes, selon la parole de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Je voudrais lire une parole dans Luc 21, nous allons considérer plusieurs écritures. La chose principale, c'est notre appel à sortir, notre préparation pour que réellement nous soyons apportés en accord avec Dieu et sa parole par sa grâce. Ici, dans Luc chapitre 21, nous lisons à partir du verset 25. Et il y aura des signes dans le ciel. Luc 21, verset 25. Dans la lune et dans les étoiles et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Pas seulement les individus, mais les peuples, les nations seront dans l'angoisse et ils ne pourront plus contrôler les problèmes. Tout va vraiment vers sa fin. Ensuite, nous avons ici, au verset 28, Luc 21, verset
28.
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Qui a 100 ans, bien 50 ans d'ici aurait entendu que tout un peuple, toute une nation tombe en faillite. Qui aurait entendu? Quand est-ce que cela aurait pu se passer il y a 100 ans, bien 50 ans d'ici? Et les gens essayent de résoudre les problèmes. Mais ici, la chose la plus importante dans ce verset, disons encore une fois, quand ces choses commenceront à arriver, que moi, le Seigneur, je vous ai annoncé à l'avance, quand ces choses commenceront à arriver réellement, verset 28, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Nous n'observons pas seulement ce qui se passe actuellement et ce qui se passe sur terre parmi les nations, dans les gouvernements en général, et ensuite en Israël, et dans tout le monde arabe. Mais nous reconnaissons que c'est le temps dans lequel toutes les prédictions qui sont liées aux prophéties bibliques trouvent leur accomplissement. Et ça, c'est le temps dans lequel nous devons nous redresser et lever nos têtes. Parce que nous savons, nous ne nous imaginons pas, etc. Ou bien nous ne pensons pas. Non, nous savons que notre délivrance, c'est-à-dire la rédemption de notre corps, tel que c'est écrit dans Romains 8, approche et que le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, va avoir lieu. Ensuite, nous avons ici, au verset 36, aussi une parole très importante, très particulière de notre Seigneur, adressée à nous tous. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous recevez la puissance pour échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que vous receviez la puissance pour échapper à toutes ces choses. Oui, comment? Oui, la puissance pour que la rédemption de notre corps, tel qu'il est écrit dans Romains 8, au verset 11, s'accomplisse tel que notre Seigneur est venu dans un corps de chair. Laissez-moi vous dire cela ouvertement. Yahvé de l'Ancien Testament est Yahshua du Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul Seigneur et qu'un seul Dieu dans lequel de tout notre cœur nous croyons, sans considérer comment est-ce qu'il s'est de combien de manières il s'est manifesté. Jacob avait combattu avec un ange, et quand on continue à lire, alors on remarque qu'il est même écrit que c'était le Seigneur lui-même dans un corps spirituel qui a ensuite frappé Jacob au rein. Quand nous voyons comment est-ce que, donc à la hanche, le Seigneur lui-même, en forme visible, a apparu dans tout l'Ancien Testament, et ensuite les scribes et pharisiens, dans l'évangile de Jean, il est décrit qu'ils vinrent à lui, à notre Seigneur, et ils ont dit, tu n'as même pas encore 50 ans, et tu veux avoir vu Abraham, dans Jean 8, et notre Seigneur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis le grand, je suis le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Et ici, la parole est adressée à nous dans ce temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la puissance, de, comme ça, seul, rien n'arrive. Le jour de la Pentecôte, ils sont venus se réunir pour la prière. Ils étaient d'un commun accord, rassemblés, unis dans la chambre haute. Et ensuite, ils sont restés pour attendre la promesse d'être remplis de la puissance d'en haut. Tel que l'Église au commencement était remplie de la puissance d'en haut, revêtue. C'est ainsi qu'avant l'enlèvement, nous devons être remplis de la puissance d'en haut. Et tel que le corps de notre Seigneur, le corps mortel de notre Seigneur a été enseveli et qu'il fut ressuscité. Et ensuite, alors que les portes et les fenêtres étaient fermées, il a pu entrer malgré tout au milieu de ses disciples, de ce corps mortel, un corps immortel a été transformé. Et c'est ainsi que lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, cela aura lieu. Nous allons recevoir un tel corps. Le corps mortel sera transformé en un corps incorruptible, immortel, et les choses corruptibles se transformeront en un corps incorruptible. Et alors ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15 s'accomplira. Englouti dans la mort, mort, où est ta victoire? Enfer, où est ton aiguillon? Oh, j'attends de ce que dans notre temps, Dieu achève son œuvre. Vous pourriez peut-être dire, mais ça, Paul, 200 ans l'a déjà attendu, 200 ans de son temps, alors qu'il disait, nous n'allons pas tous nous endormir, mais tous nous seront transformés, etc. Et aussi, Jean, dans 1 Jean chapitre 3, l'a écrit concernant le retour du Seigneur. C'était en fait le sujet principal, car c'était la promesse principale dans Jean 14. Je vais vous préparer une demeure et je reviens pour vous prendre auprès de moi. Cette espérance vivante du retour de Jésus-Christ était vivante dans tous les enfants de Dieu durant tous ces 2000 années. La différence avec nous est la suivante, c'est que cette promesse ne s'est pas encore accomplie Ils ne pouvaient pas encore voir l'accomplissement de la prophétie biblique parce que le temps n'était pas encore arrivé pour cela. Mais maintenant, le temps est là. Et Dieu, et ça nous le disons aussi ouvertement, Dieu nous a accordé la grâce d'accepter le ministère prophétique selon la parole de l'Écriture, où Jean 13, verset 20, « Si j'envoie quelqu'un et que vous le recevez, alors c'est moi que vous recevez. Selon la parole de l'Écriture, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous reçoit me reçoit. Il y a des envois divins, il y a des promesses divines qui deviennent une réalité dans le royaume de Dieu. Et heureux les hommes qui n'est pas pris de lui-même et méprise ce que Dieu fait, mais peut se soumettre, se prosterner sous la main puissante de Dieu. Et tous, vous savez, j'avais eu un grand privilège dans ma vie depuis 1949. La plupart de ceux qui sont ici, alors que la plupart n'étaient même pas encore nés, en 49, j'ai eu la grâce de naître de nouveau, déjà, d'être né de nouveau et d'être rempli du Saint-Esprit, déjà en 1949, et d'avoir part à ce que Dieu faisait déjà. Tous les évangélistes qui avaient apparu, Oral Roberts, Till, Osborne et Tony Hicks, et tous ces évangélistes, j'ai été dans leurs conférences et en partie, j'ai été le traducteur. J'ai reçu tout. J'ai pris part à tout ce qui se passait dans le domaine spirituel. En 1964, j'étais avec le frère John McDonald dans le concile, alors que le cardinal Béa avait dit, nous devons parler la langue de nos frères séparés pour qu'ils puissent nous comprendre. J'ai visité le Vatican, j'ai visité toutes ces chambres de trésors, j'ai vu Jésus en or, j'ai vu Paul en or, j'ai vu Pierre en or, j'ai vu toutes ces statues en or. Et ensuite, j'ai lu l'Apocalypse, qui nous décrivent cette ville. Oui. Par la grâce de Dieu, depuis la fin des années 40 et par les années 50 et les années 60, par la grâce de Dieu, j'ai pu voir toutes ces choses. Mais ça, je l'ai déjà souvent dit ici. Dieu a prononcé un appel particulier. Je le mentionne, en fait, pas souvent, mais volontiers. 3 heures après la naissance de William Branham, 3 heures après, la colonne de feu qui a apparu plus tard sur sa tête et au Texas avait été photographiée par des critiques, par des gens qui en fait critiquaient. Et lors de sa naissance, la mère, la sage-femme, la grand-mère étaient là et ont vu toute cette lumière surnaturelle sur le berceau, suspendue sur le berceau. Et ils se sont tous demandé, qu'est-ce qui va devenir de cet enfant? Et c'est ainsi que celui qui écoute le témoignage de cet homme de Dieu, il doit simplement dire, jamais, jamais, tant de choses surnaturelles dans la vie d'un homme de Dieu ont eu lieu, jamais, sur terre, que comme ça a eu lieu avec frère Branham, car Dieu, en vision, lui avait montré quand il priait pour une personne, qui était la personne qui était devant lui pour laquelle il priait, d'où elle venait et ce qu'elle avait, son nom, etc. Le même ministère que notre Seigneur lui-même, alors qu'il disait qu'avant que Philippe t'ait appelé, moi, je t'ai vu alors que tu étais sous le figuier, alors qu'André avait appelé son frère, il a dit, ton nom est Pierre et le nom de ton père Et Simon, le Seigneur avait ce ministère-là du Messie. Et le même ministère s'est répété dans notre temps. C'est répété. Et l'ange de l'Éternel qui vint à lui. Et ça aussi, c'est très important, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions savoir que le Nouveau Testament a commencé réellement de cette manière-là. L'ange Gabriel vint dans le temple et s'est tenu à la droite de l'autel des holocaustes et a donné à Zacharie la promesse, ta femme Élisabeth enfantera et elle aura un fils que elle appellera Jean. Car il ira devant le Seigneur dans la puissance d'Élie et préparer à l'Éternel un peuple bien disposé. Imaginez-vous si cela avait commencé avec de la philosophie, avec des pères de l'Église qui auraient exposé leurs idées. Non, le Nouveau Testament a commencé d'une manière surnaturelle, bien mes frères et sœurs, et le Nouveau Testament va s'achever d'une manière surnaturelle. Et alors que le temps fut accompli, l'ange Gabriel vint à Zacharie. Pas un homme, mais Dieu. Le ciel avait part à ce qui se passait sur terre. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le ciel a part. Prend part à ce qui se passe sur terre. Le ciel. Car, s'il vous plaît, pensez au prophète Daniel, qui aussi se défaire de tous les autres en ce qui concerne la fin des temps. Car quand on lit dans Daniel 2 et dans Daniel 7, nous voyons l'histoire, nous avons l'histoire telle qu'elle s'accomplit aujourd'hui et cela devant nos yeux. Nous voyons le 4e empire, comment est-ce qu'il apparaît? Et le monde entier s'étonne de ce qui se passe. Et ensuite, il est même écrit que dans le temps de ce 4e empire-là, Dieu établira son règne. On doit lire exactement dans la parole de Dieu ce qui est écrit et comme c'est écrit. Et ensuite, l'ange Gabriel vint à Daniel et lui dit, alors que tu commenças à prier, déjà la parole de Dieu sortit et je suis venu pour te l'apporter, pour t'ouvrir l'intelligence sur la révélation. Et alors cela s'est passé sur la vision. Et celui qui va dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, Dieu le Seigneur a envoyé son ange à Jean sur l'île de Patmos pour lui révéler ce qui allait se passer sur terre, ce qui va se passer sur terre. Ensuite, particulièrement, pas seulement, en 1933, mais en fait, je suis très reconnaissant de ce que déjà en 1966, j'ai rencontré plusieurs frères et sœurs de mes propres yeux. J'ai vu qu'en 1933, était au fleuve l'Ohio, alors que la lumière surnaturelle descendit et que la voix se fut entendre s'adressant à frère Branham audiblement, disant tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Et pourquoi est-ce que tous ces grands évangélistes ont méprisé ce ministère? Pourquoi est-ce qu'ils ont bâti leur empire dans le royaume de Dieu? Le premier et le plus grand d'eux se loue, se glorifie de ce que il a reçu même plein d'argent. Il a dépassé les millions, il est allé jusqu'au milliard. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? C'est ce que Dieu a promis à un évangéliste? de ce que des hommes, des hommes de Dieu deviennent des milliardaires ou bien des multimilliardaires. Non, non. C'est, vous avez reçu gratuitement, donné la parole de Dieu gratuitement. Mais laissons les choses. Tout doit s'accomplir dans les différents domaines. Je l'ai vu de mes propres yeux, toutes ces choses, et je l'ai expérimenté de mes propres yeux. Mais revenons, s'il vous plaît, à de quoi il s'agit pour nous. C'est-à-dire à l'appel à sortir, à la séparation et à la préparation du peuple de Dieu pour que tout de nouveau soit ramené dans l'état qui existait au commencement de l'Église et pour que le Seigneur puisse lui-même, d'une manière nouvelle, vivifier l'union des croyants. Oui, l'appeler à l'existence lui-même. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, de l'union des croyants. Plus de propre chemin, plus de propre volonté, détermine toi-même au Seigneur. Pensons à la parole que nous avons lue et maintenant nous lisons. Lisons dans Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 2. Éphésiens chapitre 3, verset 2. Éphésiens chapitre 3, verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Un appel divin n'est pas pour l'homme qui a été appelé, mais est pour le peuple à qui Dieu parle. Et là où Dieu agit, et là où sa parole est, elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée, là où elle est reçue. La dispensation de la grâce de Dieu. Paul, c'est ainsi que nous l'avons dit, c'est ainsi que c'est écrit, avait un appel particulier. Il vit la lumière plus claire que le soleil qui brille à midi. Il tomba à terre. Il entendit la voix. Pourquoi me persécutes-tu? Et ensuite, l'homme de Dieu vint lui imposer les mains sous l'ordre du Seigneur. Il lui a été dit, tu dois retrouver la vue et tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur n'a pas seulement eu un Pierre, l'homme de la première heure. Il a eu aussi un Paul, et ça je le dis ouvertement. Pierre, l'homme de la première heure, était un témoin oculaire qui avait accompagné le Seigneur dans toutes ces différentes années de son ministère. Il avait vu lui-même, il avait entendu lui-même le Seigneur servir. Il avait souffert aussi avec le Seigneur, même lors de la crucifixion. Pierre était présent. Et après, donc 40 jours après la résurrection du Seigneur, il s'est tenu au milieu de ceux à qui le Seigneur enseignait les choses du royaume de Dieu. Et ensuite, en tant que tuyau, après l'effusion de cet esprit par lequel le Seigneur a pu parler, disons-le à chaque fois d'une manière nouvelle, la première et la dernière prédication doit être semblable. Le premier et le dernier baptême doivent être semblables. C'est pour cette raison que Dieu a aussi, d'une manière si merveilleuse, en insistant, à utiliser Frère Branham, pas seulement pour apporter le message, mais réellement pour confirmer comme jamais un homme de Dieu sur terre l'aurait reçu. Un tel ministère n'a jamais existé au commencement. Auparavant, Pierre ne l'a pas eu, Paul ne l'a pas eu, Jacques ne l'a pas eu, Jean ne l'a pas eu. Un ministère qui a sa place dans le royaume de Dieu, qui est semblable au ministère du Seigneur lui-même en tant que fils de l'homme. Et je vous dis, Dieu ne fait pas de copie. Il a toujours un original. Noé avait un mandat original. Moïse avait tout à fait un autre. Josué avait aussi tout un autre mandat. Élie avait tout à fait un autre mandat. Tous avaient leur propre mandat original, aucune copie. Et tous ont exécuté leur ministère dans la parfaite volonté de Dieu, dans l'ordre du Seigneur. Il est écrit dans Hébreux que Dieu, le Seigneur, a ordonné à Moïse de construire tout selon le modèle qui lui avait été montré sur la sainte montagne. Hébreux, chapitre 8. Ouvrons cela. Lisons cela rapidement. Hébreux, chapitre 8. Verset 5. B, la deuxième partie, ici il est écrit, lisons la dernière partie du verset 5, à partir du verset 5, dans Hébreux chapitre
8.
Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout après le modèle. Et celui qui lit après le temps de Moïse, tout a été confirmé par le Seigneur. Comment est-ce que le chandelier, les tables des pleines propositions, tout avait été exactement selon ce que Moïse avait vu. Et quand tout a été tel que Dieu était, même les femmes qui devaient coudre le rideau, etc., Dieu leur a accordé l'esprit de sagesse. Tous ceux qui travaillaient à cette œuvre étaient sous l'onction de l'esprit de sagesse et de la capacité pour faire les choses telles que Moïse les avait vues. Et ensuite, il est écrit que Moïse était fidèle dans sa maison. Et Christ est fidèle aussi dans sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc, il faut que en nous, tout soit selon l'ordre de Dieu, selon la révélation de la parole de Dieu. Et je vous dis, cela a lieu déjà et cela va continuer à être manifesté. Nous avons le modèle déjà et c'est selon ce modèle-là que nous pouvons nous laisser bâtir, que tous les autres aient leur propre modèle et fassent ce qu'ils veulent. Nous avons trouvé la grâce devant Dieu de reconnaître l'importance des choses pour nous. Nous insistons toujours de nouveau en disant que le Seigneur a une église. Une église épouse, il a une épouse. Et d'elle, il est écrit, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Et ça, c'est la justice des saints. Donc, il nous appartient d'accomplir toute justice et de faire la volonté de Dieu et de faire ce qu'il nous a ordonné dans sa parole. Revenons à Éphésiens chapitre 3. Ici, l'homme de Dieu, sous l'ordre du Seigneur, écrit comment est-ce que les choses doivent être avec nous en tant qu'Église. Et au verset 4, Éphésiens 3, verset 4, lisons maintenant. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Pas seulement de la prédication du mystère du Christ, mais sa réalité, sa réalité, vous pouvez reconnaître de quelle manière moi, Paul, en les lisant, vous pouvez vous représenter de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Appelé à prêcher l'évangile éternel. Et Paul, c'était lui qui a parlé sur chaque enseignement biblique, sur les ministères, sur les dons, sur les fruits de l'esprit, sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé de chaque sujet. Il a parlé de chaque sujet. Et cela sous l'ordre du Seigneur pour accomplir son ministère. Et aujourd'hui, nous avons le même accès par le même esprit. Et je n'ai pas besoin de changer tout, ne serait-ce qu'un seul point. Nous avons la grâce de laisser tout tel que c'est. Et nous sommes reconnaissants par Dieu pour le Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de comprendre tout tel que Paul l'a reçu. Ou bien alors les autres apôtres, sans oublier les autres, Dieu a pensé vraiment à tout dans sa parole. Il a traité tous les sujets. Et nous avons une pleine révélation de tout le dessein du salut de notre Dieu avec tous les enseignements, avec tout ce qui a été accordé à l'Église. Écoutez encore. Le verset 5 dans ce chapitre, Éphésiens 3. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alléluia! Le temps était arrivé, l'heure avait frappé, les promesses devinrent une réalité. Le Nouveau Testament prit son cours, l'Église fut fondée, a reçu son ministère d'aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile, et tel que Paul, dans Actes Apôtres chapitre 13, l'a écrit, tous ceux qui étaient déterminés à la vie éternelle devinrent croyants. Comme souvent nous avons eu à le dire, pas une discussion, non. La foi ne discute pas. Elle croit ce que Dieu a dit dans sa parole. Car la foi vient de la prédication. Et de ce qu'on entend, donc. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole du Christ. Il y a un frère ici, dans le mail, qui m'a écrit, je crois que c'est le frère, oui, je ne sais pas si je devrais le nommer de son nom, il vient de l'Afrique du Sud, et il écrit ici, de mon témoignage qu'il a lu, alors que j'ai eu cette expérience puissante avec la moissonneuse batteuse et que je vis le champ plus que mûr où le grain de blé était même tellement mûr qu'il était courbé. Et il dit ici, Beloved brother, bien-aimé frère, je me rappelle de ce que tu as expérimenté alors qu'il te fut dit, mon serviteur, cette moissonneuse batteuse est pour toi, est déterminée à toi, pour que tu puisses récolter la moisson. Et le frère a encore mentionné plusieurs choses. On n'en peut rien, que ce soit pour un ministère qu'on reçoit, ou bien pour un appel ou un mandat. Tout ce que Dieu fait est dans sa parfaite volonté. Il n'y a aucun prophète, aucun homme de Dieu qui aurait un accès, qui aurait eu influence sur Dieu pour que Dieu l'appelle. Non, mais Dieu, lui, il a influence sur tous. C'est lui qui décide. Il a son influence sur tout ce qu'il a appelé. Et Dieu a réellement dit à chaque serviteur individuellement ce qu'il attend de lui. Je n'ai pas à chaque fois besoin de le dire à chaque fois. Mais alors que le Seigneur particulièrement m'avait dit, donner ces quatre choses auxquelles je dois faire attention, quatre choses, que je dois aller de ville en ville pour prêcher sa parole et que je dois emmagasiner la nourriture et ensuite la distribuer, ne pas fonder d'église locale et ne pas éditer de livrer de chants. Ce sont ces quatre choses que le Seigneur m'a ordonnées. Ensuite, il y a un ange du ciel même peut venir et dire, mais frère Franck, Paul a fondé des églises, Paul a établi des anciens, Paul avait son ministère, Pierre avait son ministère. Vous voyez, chacun, nous ne sommes pas une copie. Et Jean avait aussi son ministère, celui de Patmos. Laissez-moi aussi avoir mon ministère et faire ce que le Seigneur attend et m'a ordonné. C'est ce qu'il avait ordonné à Paul et à Pierre. Moi, le Seigneur m'a dit d'aller de ville en ville et de prêcher sa parole. Il ne m'a pas parlé d'établir des anciens. Il m'a dit de prêcher sa parole de ville en ville et de partir. Et de distribuer la nourriture. Je fais seulement ce qu'il m'a ordonné de faire. Et plus de 40 ans sont passés, où les prédications de frère Branham, avec tant de gains intérieurs, sont lues. Et c'est une bénédiction, c'est puissant. Quelle nourriture spirituelle sont contenues dans ces prédications de frère Branham. Et bénis sont tous ceux qui s'approfondissent dans ces prédications, dans ces messages, et qui lisent. Et aussi ces deux choses, de ne pas fonder une église locale. Comment est-ce que je pourrais le faire si il m'est dit d'aller de ville à ville et que je reste seulement dans une ville au moins, au plus, 2-3 jours? Je ne reste pas comme Paul 2 ans ou bien 6 mois dans une ville. Je dois aller de ville en ville. Il m'a été ordonné d'aller de ville en ville pour porter le message et prêcher la parole. Et c'est ce que je fais. Dans la vie, je n'ai pas fait tout correctement. Sûrement que personne de nous a fait tout correctement. Même les hommes de Dieu ne forment pas une exception dans leur vie personnelle. Et ils n'ont pas tout fait correctement. Mais dans le royaume de Dieu, dans le ministère de Dieu, je veux faire toutes choses correctement. Tout ce que le Seigneur m'a ordonné de faire, je veux le faire correctement. Et pour cela, jusqu'à maintenant, il a accordé toujours sa grâce et il continuera à le faire. En ce qui concerne la moissonneuse batteuse, c'est vraiment une expérience merveilleuse où réellement je suis sorti de mon corps, je fus pris de mon corps, j'étais à l'extérieur de mon corps et j'ai vu un champ énorme. Un champ énorme de blé. Comme je le disais auparavant, tous les grains de blé étaient plus que mûrs et étaient courbés tant ils étaient mûrs. Et ensuite, la voix du Seigneur a retenti. Mon serviteur récolte la moisson, monte sur la moissonneuse batteuse, car elle est déterminée à toi, elle est pour toi. Et vous connaissez tous donc les détails de cette expérience. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Quand ensuite, ici je voyais la moissonneuse batteuse, si par exemple, cette feuille serait le champ de blé. La moissonneuse batteuse était ici en haut à gauche. Donc moi je regardais à droite et le Seigneur m'a ordonné ensuite de monter sur la moissonneuse batteuse. Je suis monté sur le tracteur. Vous savez, techniquement je ne connais pas bien. Je sais seulement très bien conduire les voitures, mais pas plus. Mais la moissonneuse batteuse, j'ai eu un peu des problèmes, n'est-ce pas, pour l'utiliser. Donc un peu, seulement quelques manœuvres, quelques leviers. Et puis elle a fonctionné. Et je regardais le ciel a commencé à se couvrir. Et subitement, c'était comme si un orage allait avoir lieu. Un orage. Tout est devenu sombre. Et j'ai dit, oh Seigneur, c'est trop tard, c'est trop tard. Je ne peux pas récolter. Les jugements frappent, sont en train de vouloir déjà frapper la terre. Et alors que j'étais juste en train de dire ça, il y a eu une ouverture dans le ciel, dans ce ciel obscur, dans ces nuages obscurs. Une ouverture. Et de cette ouverture, le soleil, je vous dis, peut-être en exagérant, a brillé 7 fois plus fort qu'il brille normalement.
Oh,
et cette lumière du soleil a éclairé tout le champ. Et malgré l'obscurité, par la lumière du soleil, j'ai pu récolter la moisson, donc exécuter le mandat. Et la dernière rangée a été d'en bas vers en haut. Et j'étais en train de finir la dernière rangée. De battre la dernière rangée. Subitement, le tonnerre a commencé à gronder et les éclairs. Et une tempête, je pensais que la terre s'écroulait. Mais la moisson fut récoltée. Oh, nous vivons dans un temps où la moisson est mûre. Où les tempêtes et les oracles sont en train de se couvrir. Et nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais il y a une chose que nous savons. Le Seigneur qui a semé, qui a ensemencé son champ, lui, il fera en sorte que le grain de blé, par l'enlèvement, soit rassemblé dans le grenier. Et ceux qui restent derrière, la paille qui reste derrière, qui était l'enveloppe du grain, qui ressemblait au grain, sera brûlée. Vous savez, je sais comment j'ai grandi dans la ferme, je sais comment on moissonne, je sais comment on frappe, je sais comment on cible, je sais comment on trie le blé, etc. Je sais comment on sème, je sais comment on frappe la moisson, etc. Vous savez ce qui se passe quand on trie? Alors la paille est emportée par le vent partout où le vent souffle, de la direction du vent. Mais le blé, il reste dans la cible. Aucun grain ne part, est emporté par le vent. C'est seulement la paille. Elle a sa joie même d'être emportée par le vent. La paille a même la joie d'être emportée par le vent. Mais là, le grain reste. Oui. Et il ne reste que du vent, que du grain. Après le tri, il ne reste que du grain. Aucune paille ne reste. Et je vous dis que le jour de l'enlèvement, le Seigneur aura une église épouse, pleine de grains, sans paille. Elle sera rapportée dans le grenier. Et nous aurons la grande joie dans ce temps de vivre et ainsi de permettre au Seigneur de nous parler par ta parole personnellement, individuellement. J'ai la grâce de vous dire, bien mes frères et sœurs, que la parole de Dieu ne rentre pas ici dans une oreille et ne sort pas dans l'autre. Mais la parole de Dieu, elle pénètre notre cœur, elle inonde notre cœur. Le Seigneur nous parle, il touche notre cœur, il parle avec nous. Nous le savons, nous le ressentons. Et j'ose même dire que tout ce qui est prêché est compris par vous. Que Dieu le révèle par le Saint-Esprit à chacun individuellement. Et que il n'y a aucune discussion qui est nécessaire. Aucune discussion. Répétons encore une fois. Là où il y a la révélation, on ne discute pas. Là où on discute, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Alors souhaitons à tous la pleine révélation de Jésus-Christ, la pleine révélation de tous les mystères, tels que particulièrement par l'ouverture des 7 sceaux dans le ministère de Frère Branham, cela nous a été accordé et donné à l'Église. Acceptons tout de la main du Seigneur et tout nous sera révélé par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore lues et dites. Le Seigneur est fidèle. Il a commencé. Il achèvera. Et ça aussi, j'ai eu souvent à le dire. D'abord, il faut qu'il commence son œuvre. Ensuite, il pourra l'achever. S'il n'a pas commencé, il ne pourra rien achever. Il faut que le Seigneur, en chacun individuellement, fasse le commencement. Ensuite, l'œuvre qu'il a commencée pourra être achevée. Si le Seigneur, dans ta vie, ne pouvait pas faire le commencement, il ne pourra aussi rien achever. Le Seigneur qui nous puisse accorder sa grâce à chacun individuellement, que en tous, là où le commencement n'a pas encore eu lieu, que selon les Écritures, il y a un commencement biblique. Nous sommes ici, nous venons de différentes nations, notre origine, notre nationalité, tout est différent. Mais nous avons la foi en un seul Dieu. Nous avons tous part à la même rédemption, au même salut et à tout ce que Dieu nous a préparé. Nous pouvons vraiment, avec droit, chanter. Nous venons de l'Est et de l'Ouest. Nous venons du Sud et du Nord. Nous venons à la salle des festins dans les lieux célestes et nous écoutons les paroles du Sauveur. Oh, quelle grâce! Combien de prophètes et de justes ont voulu voir ce que nous voyons et n'ont pas vu. Nous vivons dans un temps très particulier et cela avant même le retour du Seigneur. Et soyez pleins d'assurance. Le Seigneur sera avec nous et nous conduira, nous accompagnera sur ce chemin parce que c'est son chemin. Et dans le temps convenable, il accordera la parole convenable et l'Église sera conduite par le Saint-Esprit. Et ici, encore un point sur lequel je devais encore penser il n'y a pas longtemps parce qu'un frère, je crois que c'était par mail, m'avait demandé qu'est-ce que cela signifie les oreilles, les bagues de nez et les boucles d'oreilles. Qu'est-ce que c'était ça chez Rebecca? Et je lui ai dit, cela ne m'intéresse pas en ce moment. Moi, m'intéresse une seule chose. Que Rebecca, au moment où Eliezer, le serviteur d'Abraham, l'avait rencontré, jusqu'à qu'elle rencontra son époux, avec toutes les stations, là, par toutes les stations, le serviteur l'a accompagnée jusqu'à qu'elle rencontre Isaac, son époux. Elle a été, que ce soit quoi qu'elle avait, l'épouse a été accompagnée du premier jour, du puits elle a été accompagnée, chaque station. Le serviteur a accompagné l'épouse jusqu'à qu'elle fût remise à son époux, jusqu'à la rencontre de l'époux. Et le Seigneur a accordé sa grâce. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, que l'épouse soit accompagnée, qu'elle ne soit pas seule, mais qu'elle soit accompagnée. Et que le Seigneur nous a donné la promesse. Il est l'époux et nous sommes l'épouse. Il a donné la promesse. Voici, je suis auprès de vous, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, je suis avec vous jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous lisons avec la crainte et nous prêchons avec la crainte de Dieu, la parole de Dieu. Et cette parole qu'a pris son origine en Dieu achèvera l'œuvre de Dieu avec nous. Et nous aurons part à tout ce que Dieu fait dans le présent. Remarquez-vous encore Apocalypse, le chapitre 2. L'écrit à la première église, il est écrit, rappelle-toi d'où tu es tombé et abandonne ton premier. Et souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Apocalypse 2, verset 5. Donc, comprenons que l'Église primitive est tombée a été enveloppé dans plusieurs enseignements et que maintenant le temps est arrivé de revenir au commencement. Nous avons compris en comparaison avec son état au commencement. Nous comprenons de quelle manière elle est tombée, dans quel enseignement elle est tombée, etc. Et il est écrit, il lui est dit déjà dans le premier âge, de revenir au commencement, de revenir au commencement. Qui reviendra et de pratiquer les premières œuvres? Seulement l'épouse se répand, pratique ses premières œuvres, revient. Bien-aimés frères et sœurs, mon cœur est touché de ce que Dieu fait dans le présent et particulièrement de ce que nous avons une part directe à cela. Nos réunions vont avoir servi à quelque chose, pas seulement pour nous qui sommes ici présents, mais pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs dans le monde entier qui écoutent la parole originale, qui sont apportées en accord avec ce qui s'était passé au commencement et tout ce qui appartient au rétablissement de toutes choses et tout ce qui sera restitué par Dieu dans l'Église à la fin, maintenant. Et nous pourrons dire que de toutes les promesses que le Seigneur a faites, aucune est restée sans accomplir. Pas seulement aucune, mais aucune. Donc, aucune d'elles, pas une seule est restée sans accomplir. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Et nous sommes les porteurs des promesses en tant que enfants de la promesse. Et nous serons scellés de l'esprit de la promesse, comme c'est écrit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Et ensuite, nous devons faire attention, comme dans Éphésiens 4, au verset 30, de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés pour le jour de notre rédemption. Le scellement est merveilleux. Dieu nous l'accorde à tous. Mais ensuite, il est écrit de ne pas attrister cet esprit par une incrédulité, par une désobéissance, par quoi que ce soit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui parle avec vous, qui vous révèle la parole, par lequel vous avez été scellé, qui vous conduit dans toute la vérité. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Seigneur, notre Dieu, qui nous accorde sa grâce, dans la crainte de vivre devant lui, de marcher devant lui, de revenir au commencement, de pratiquer les premières œuvres, de pratiquer le premier amour, de revenir au commencement de l'Église. Et le Seigneur achèvera son œuvre par la grâce, par sa grâce. C'est ce qui est écrit dans Zacharie 4. Ce n'est pas par la puissance ou bien par la force ou bien par l'honneur, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, c'est ainsi dit le Seigneur. L'achèvement de l'œuvre de Dieu n'aura pas lieu par un homme de Dieu, mais par le Seigneur lui-même, pas par un homme particulier, mais l'achèvement de l'œuvre de Dieu aura lieu par le Seigneur lui-même. Nous n'entendons pas la parole de Dieu en vain, et nos rencontres, le fait que vous veniez, ne sert pas comme ça à rien. Non, l'heure viendra où le Seigneur parlera directement avec nous par sa parole et nous accordera la disposition du cœur adéquate pour expérimenter tout ce qu'il a promis. Tous, combien sont ceux qui disent amen à la parole? À chaque parole. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, qu'il achève maintenant dans le septième âge de l'Église son œuvre telle qu'il l'a fait dans le septième jour de la création et s'est reposé et a regardé et a dit que tout était bien, était bon, et il s'est reposé le septième jour. Dieu le Seigneur, qui a un dessein du salut si merveilleux, qu'il l'achève dans notre jour, dans nos jours. À lui le Dieu Tout-Puissant, qui est descendu de cette manière et qui a prononcé des appels et des mandats et des envois. Je voudrais encore vous dire la chose suivante. Pour finir, qu'est-ce que nous aurions eu de ça? À quoi est-ce que cela aurait servi si nous prêcherions ce que Dieu a prêché du temps de Noé, du temps de Moïse, du temps des temps passés? À quoi est-ce que ça serait vrai que nous disions ce que Dieu a fait du temps de Moïse, du temps de Noé? Qu'est-ce que ça nous servirait si nous ne savions pas ce que Dieu nous a promis pour ce temps dans lequel nous vivons? Si nous ne savions pas ce que Dieu fait maintenant et si nous n'avions pas part à cela? Ce qui est merveilleux, c'est que le frère Branham, ouvertement et clairement, a parlé de son appel et de son mandat et de son ministère. Ouvertement, il l'a fait. Et particulièrement aussi que ce n'est pas lui, mais que c'est le message qui lui a été confié. Qui serait précurseur du retour du Christ? Pas lui, mais le message qui lui a été confié. Et cela a lieu vraiment dans nos jours. Personne n'a besoin ici de donner des cours particuliers. Cela a lieu maintenant. C'est une réalité dans le jour dans lequel nous vivons. L'accomplissement des Écritures. Lors de la première venue, un prophète, un temps de préparation, et ensuite le passage au Seigneur, au ministère du Seigneur. Et c'est la même chose encore maintenant. Et soyez sincères, si nous considérons Moïse, qui devait aller sur la montagne de Nebo, et ensuite regarder à Jéricho de la montagne de Nebo, et ensuite regarder dans le pays de la promesse, mais n'avait pas le droit d'y entrer, on pourrait de l'extérieur considérer, dire, « Ah, mais Moïse, je pensais que tu allais entrer dans le pays de la promesse. » Moïse avait accompli son ministère, mais l'œuvre de Dieu n'était pas terminée avec la fin du ministère de Moïse. L'œuvre de Dieu a continué avec Josué. Moïse avait fini, mais Dieu, lui, n'avait pas fini. Le temps a continué. Il y en a qui disent que tout s'est terminé, l'œuvre de Dieu s'est terminée avec frère Branham. Non, pas pour moi. Pas pour moi. Pour moi, ce n'est pas encore même maintenant encore la fin. La fin n'est pas encore maintenant. La fin va encore arriver. Et à la fin, la chose encore plus grande va encore arriver que Dieu n'aurait jamais fait. Il y a un ordre divin dans le royaume de Dieu. Et l'histoire du salut de notre Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous sommes simplement reconnaissants. Dieu le Seigneur, qui nous bénisse tous. Et qu'il soit avec nous tous, tous ceux qui sont aussi en ligne directe dans le monde entier. Que le Seigneur achève son œuvre. Dans ce temps, il achève son œuvre. Maintenant, rapidement, la question, qui veut se laisser baptiser? Avons-nous des frères et des sœurs ici qui veulent se laisser baptiser? Levez-vous, s'il vous plaît, pour que nous puissions savoir. 1, 2, 3, 4. Oui. 3, 4. Bon, d'accord. Alors nous avons, après cette réunion, le baptême. Et nous allons, tout à l'heure, appeler ceux qui veulent se laisser baptiser de venir devant. D'abord, nous nous levons et nous allons ensemble remercier le Seigneur. Avant la prière, nous voulons courber les têtes. Et je voudrais aujourd'hui consciemment demander qui a encore un problème quelque part, quelconque, en ce qui concerne le ministère de frère Branham, en ce qui concerne ce qui se passe maintenant. Si il y a quelque chose qui n'est pas clair, apportez vos doutes au Seigneur. L'Église doit réellement devenir un seul cœur et une seule âme. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tous doivent être conduits à la connaissance de la vérité, tous appelés à sortir, tous mis à part, tous reçus la grâce et tous en part au rétablissement de toutes choses. Nous ne pouvons plus marcher dans nos propres voies. Nous devons marcher sur le chemin du Seigneur et nous devons marcher ainsi pour que nous puissions atteindre le but. Pour atteindre le but, nous ne le disons pas seulement, c'est écrit, n'est-ce pas, Dieu a fait connaître à Moïse ses voies et aux enfants d'Israël son œuvre. Dieu nous a fait savoir ses voies et son troupeau racheté par son sang, son église. Il lui a fait savoir son œuvre dans ce temps. Et nous avons une part directe à ce que Dieu fait dans le présent. Je ne sais pas si les deux sœurs ont encore un cantique. Nous allons ensuite ensemble prier. Simplement prier et croire. Prier et croire. Nous voulons encore chanter ce chœur. Seigneur, accorde-moi la grâce. Oui, il a parlé et il continuera à le faire et accorder sa grâce.
Maranatha war das kein Wort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens aller Herzen hat erfreut. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig hin zum Eigentum. Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum. Lass die Herzen höher schlagen, aller die sein Eigentum. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen, aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selige Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit, bereits die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selige Hoffnung, Komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endes Zeichen sind wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selbe Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Und der Geist und die
Frau, et l'Esprit
sagen, komm,
et l'Épouse disent, viens.
Und wer es höre,
et que celui qui l'écoute dit, viens. Loué soit le Seigneur, notre Dieu. Je voudrais à tous ceux qui parlent d'autres langues, je voudrais vous remercier de ce que vous avez de la patience avec nous quand il est prêché en allemand ici et que aussi on chante aussi en allemand. Mais nous chantons des cantiques, nous choisissons des cantiques que tous connaissent dans toutes les autres langues. Et si éventuellement cela est possible, nous pourrions aussi, dans la moitié du temps avant la réunion, parfois inclure une langue ou une autre pour que tous se sentent bien et que le Seigneur, dans toutes les différentes langues, aussi en cet endroit, soit honoré et glorifié, pas toujours en allemand. Nous n'avons pas un esprit national. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas l'esprit d'un pays. Nous devons toujours faire attention à toutes choses à cela. Que ce ne soit pas un esprit national qui nous anime, mais que ce soit le Saint-Esprit qui nous anime. Et à Jérusalem, il y avait 16 différentes nationalités de Cappadoce, de la Syrie, de partout, de l'Arabie, et tout ça, qui étaient venus lors du premier baptême du Saint-Esprit, la première effusion. Qu'est-ce qui doit se passer avec nous lors de la dernière effusion du Saint-Esprit? Nous voulons, de tous les peuples, langues et les nations, venir nous rassembler jusqu'à que l'effusion du Saint-Esprit réellement ait lieu et que tous nous puissions louer le nom du Seigneur. Que tous ceux qui veulent se laisser baptiser puissent maintenant venir devant. Venez s'il vous plaît devant. Et nous chantons ce chœur, encore une fois, que nous avons chanté plusieurs fois. Vous tous qui êtes venus devant, comprends-tu l'allemand? Tu parles allemand? C'est important. Ce qui est important, c'est que vous ayez consacré votre vie au Seigneur. Pour le moment, tel que les cheveux sont, ça n'a pas tellement d'importance. Le Seigneur, lui, il connaît le cœur. Ensuite, vous pouvez arranger vos cheveux. Eh bien, les couper normalement, comme c'est normal pour un homme. Ce qui est important, c'est que le cœur soit lié avec Dieu. Est-ce que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? et que vous croyez que sur la croix à Golgotha, il est mort pour vous, il a donné sa vie pour vous et il vous a racheté. Et par sa grâce, il vous a accordé la vie éternelle. Et que maintenant, vous voulez faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. L'alliance que Dieu a faite, vous la confirmez. Alors qu'il disait, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Dans le baptême, vous confirmez que vous êtes enfant de la nouvelle alliance et que vous avez accepté le destin du salut de notre Dieu pour vous. Et qu'à partir d'aujourd'hui, dans l'obéissance à la parole de Dieu, vous voulez conduire une vie qui est agréable à Dieu. Et que c'est ainsi, alors dites Amen. Merci. 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 Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. Le frère Schmidt va vous baptiser et il vient maintenant et va prier avec vous. Grand Dieu, nous te remercions toujours de nouveau pour ta grâce et fidélité. Toi qui envoies ta parole et qui guéris. Toi qui as parlé, Seigneur, à chacun individuellement, aussi à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui veulent rendre ce témoignage et qui vont rendre ce témoignage publiquement devant toi et devant les hommes, avec un cœur pur, avec de marcher avec une bonne conscience devant toi pour l'honneur de ton nom. Ainsi, nous te demandons ta bénédiction et ton secours au Seigneur. Et nous te remercions de ce que tous de nouveau tu confirmes ta parole et que c'est encore le temps de la grâce. Nous ne savons pas combien de temps ce temps de la grâce durera encore, mais sois avec nos frères qui te consacrent leur vie aujourd'hui. Bénis-les de la plénitude de ta grâce et remplis-les de la puissance d'en haut. Et nous tous, nous voulons te louer pour cela et t'honorer. Amen.
Amen.
Encore une demande. Pensez à moi. Jeudi, j'irai en Afrique. Cette fois-ci, Johannesburg, Pretoria, Durban, Port Elizabeth et Kapstadt, peut-être encore dans une ville à 200 km de Kapstadt, au nord de Kapstadt, simplement pour porter la parole du Seigneur. Je ne peux pas dire non quand les frères invitent. Et c'est ainsi que je vais aller avec des salutations de votre part et penser à moi dans vos prières. Nous donnons à nos frères de la Tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Roumanie, de l'Autriche, de l'Italie, de tous les pays de la Suisse, de la France, de l'Afrique, de la Belgique. Nous vous donnons à tous des salutations, à tous nos frères et sœurs. Saluez tous de notre part. Et nous avons ce souhait-là que l'Église épouse internationalement soit apporté à marcher dans le même pas que tous les frères dans le ministère, soient tous conduits réellement par le Saint-Esprit, et qu'il n'y ait pas un seul frère qui prêche ses propres interprétations et ses propres opinions, mais que ce soit seulement la parole de Dieu qui soit valable et qui demeure éternellement. Ainsi, nous souhaitons particulièrement à notre frère Leonardo, comment s'appelle notre frère de Kinshasa, à Théodore, le frère Théodore, viens, où est notre frère, est-ce que le frère Arben est là, où est le frère Arben, viens s'il te plaît devant, viens devant, et nous demandons à notre frère qui puisse prier en français. Juste une prière. Et le frère va traduire. Salutations pour tous les frères et sœurs.
Je transmets mes salutations.
Ja. Ich bringe euch die Grüße.
Ja. Pour tous les frères du Congo.
Ja. Unseren Brüdern aus der Republik Kongo.
Nous apprécions beaucoup les réunions de Krefeld.
Wir schätzen die Versammlung hier in Krefeld sehr.
C'est comme une agence de voyage où nous venons nous informer pour notre voyage. C'est comme une agence de voyage.
Ja. Es ist so, wie wenn man eine Reise macht und fragt und sie planen will, da muss man in ein Reisebüro. Und so ist es auch für uns. Und wir, die wir auf die Entrückung warten, so ist es auch. Wir erfahren hier den Reiseplan. Ne?
Ja.
Gott segne euch.
Mein Gott.
Priez. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur.
Herr allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde.
Ja. Toi qui as proclamé ta responsabilité sacrée de produire en nous le vouloir et le faire.
Du hast die Verantwortung übernommen, dass das Wollen und das Vollbringen in uns erreicht wird.
Crée en nous la soif ardente de ta parole parlée.
Schaffe in uns den notwendigen Durst für dein gesprochenes Wort.
C'est pour ça qu'on a quitté des centaines et des milliers de kilomètres pour venir écouter.
Wir sind ja deswegen gekommen, tausende über tausende Kilometer.
Écouter la parole vivante, Seigneur.
Damit wir das lebendige Wort Gottes hören.
Afin que tu puisses créer en nous.
Damit du das in uns schaffen kannst.
Un cœur nouveau.
Ein neues Herz in uns.
Un esprit bien disposé, Seigneur.
Und einen willigen Geist uns schenken kannst.
Que nous puissions nous éloigner des interprétations particulières.
Damit wir uns von allen Deutungen abwenden.
Nous voulons rentrer dans la ligne du devoir.
Wir wollen in die Reinheit des Wortes kommen.
Nous sommes décidés d'obéir à retourner au modèle biblique.
Wir sind bereit zu gehorchen und dem biblischen Muster zu folgen.
Donne-nous l'obéissance, Seigneur.
Schenke uns diesen Gehorsam dazu.
Enlève en nous l'orgueil.
Nimm alle Hochmut von uns weg.
Afin que nous puissions nous agenouiller et confesser nos péchés.
Damit wir auf unseren Knien auch unsere Sünden bekennen können, Herr.
Et pitié de nous, Seigneur.
Sei uns gnädig, Herr.
Donne-nous l'obéissance.
Gib uns Gehorsam.
Au nom de Jésus.
Im Namen Jesu.
Amen.
Amen.
Beaucoup de salutations pour tous les frères et sœurs.
Herr, schenk mir die Kraft, Herr. Seigneur, accorde-moi la force et parle avec moi. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, laisse luire ta face sur nous. Accorde-nous ta bénédiction. Et comme notre frère priait, tu nous as donné la description du voyage et tu as fait tout ce qui est nécessaire pour nous montrer le chemin, pour nous éclaircir le chemin à suivre. Et nous te remercions pour cela. Bien-aimé Seigneur, que nous soyons conscients du privilège que nous avons d'être l'épouse de l'agneau à laquelle nous avons la grâce d'appartenir parce que nous le sommes, parce que maintenant nous prêtons l'oreille à la voix de l'époux. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela. Bénis tous les frères dans tous les peuples, les langues et les nations. Bénis sur toute la terre. Nous te remercions pour le ministère que tu as accordé dans notre temps. Nous te remercions pour la continuation du ministère et nous te remercions maintenant pour l'achèvement de ton œuvre et la continuité de ton œuvre. Nous ressentons ta présence. Ta présence est ici. Tu es présent. Tu as parlé avec nous et nos cœurs ne sont pas seulement touchés, ils sont ouverts. Notre compréhension pour les Écritures, tu l'as ouvert. Tu l'as ouverte et tu as oint nos yeux. Ô bien-aimé Seigneur, sois avec nous tous. Sois avec moi pendant ce voyage. Sois avec tous ceux qui viennent de loin, qui sont venus de loin et de près. Garde-les, accompagne-les. Sois avec nos frères au Congo. Sois avec les frères sur toute la terre. À toi, l'agneau de Dieu, nous disons merci. Et nous t'adorons, toi le Dieu Tout-Puissant. Dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux qui se laissent baptiser, que tu puisses les bénir, les bénir particulièrement. Nous te les remettons, nous te les redonnons, que leur vie te soit consacrée. Bénis aussi nos visiteurs des États-Unis. Bénis notre sœur Renate et son fils Ben et notre visite de Edmonton, Canada. Bénis tous, ô Seigneur, de la plénitude de ta grâce et que tous soient bénis, repartent bénis à la maison. Le frère Kazimir de la Pologne, bénis tous et sois avec nous tous. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la reconnaissance pour tout, aussi pour la compréhension que tu as accordée à chacun aujourd'hui sous le coup de ta parole. Je te remercie de ce que ta parole aujourd'hui était ta voix et que tous ceux qui étaient présents ont entendu ta parole, ont entendu ta voix, dans la crainte l'ont reçue et elle a été révélée. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'adoration dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que tout le peuple dise Alléluia. Et que tout le peuple dise Amen. Amen.
Lob, Ehre und Preis.
Amen.